Boomerang à l'heure européenne, on entame cette semaine spéciale à Lille où je me suis rendu dans 5 pays d'Europe rencontrer des écrivains et intellectuels francophones dans un lieu qu'ils ont choisi pour interroger leur idée, leur expérience, leur sentiment européen. On commence avec Éric De Luca chez lui à Rome, un entretien enregistré mercredi dernier. C'est parti. Ne me dites pas que c'est une carte postale, ou alors pas celle que vous croyez. Pas de monument au détour d'une rue, pas de colisée, pas d'antiquité, pas de ruines à découvrir sous quelques grandes avenues ou de fontaines d'amoureux ou de Dolce Vita. On est bien à Rome, mais un peu à l'écart de tout ça, un peu à l'ouest, en réalité, via Tragliatella. Et quand le portail s'ouvre, il nous attend sur le petit chemin qui mène à sa maison, un petit chemin d'herbe et de pierre qui borde une campagne verdoyante, des arbres qu'il a plantés lui-même, des fleurs jaunes soleil dans des grands pots de terre, la grande étendue de ciel bleu et surtout, pas de barrière, pas de clôture, pas de frontière, la petite maison est ouverte, il n'y a même pas de clé quand on pousse la porte et qu'on entre dans la cuisine. Le café est sur le réchaud, sur les murs il y a des étiquettes de vin qu'il a soigneusement collées. Sur la table, des livres et une carafe d'eau. Il n'y a plus qu'à installer les micros. Et pour que le son soit meilleur, le son que vous allez entendre ce matin à la radio, j'hésite à lui demander une dernière chose avant de poser ma première question. J'hésite et puis j'y renonce, parce qu'avec lui ça n'aurait pas de sens. Alors tant pis, si on entend le souffle du vent et le chant des oiseaux, les fenêtres resteront ouvertes.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est un écrivain européen, incarnation de la dissidence, de la résistance. Il est né en Italie, à Naples, et c'est à Rome, chez lui, qu'il nous reçoit ce matin pour inaugurer cette semaine consacrée à l'Europe. Bonjour, Éric De Luca.
Bonjour, Augustin.
Merci beaucoup d'être là, ou plutôt de nous recevoir. Tout d'abord, puisqu'on se trouve ici, à Rome, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous sentez quand vous ouvrez vos fenêtres? Le matin.
Bon, je suis dans la campagne, donc je suis parmi mes amis, les arbres que j'ai plantés tous. Tous les arbres qui sont sur mon terrain sont tous plantés. Je profite aussi de l'air bois quand il meurt. Maintenant, dans la cheminée, il y a un morceau de mimosa qui est en train de donner sa dernière énergie.
Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu à Rome?
La première fois que je suis venu à Rome, j'avais pris un train de Napoli. J'avais 18 ans, je venais de quitter sans faire du bruit et sans frapper la porte, la maison de mes parents. J'avais un petit sac, 100 livres et avec un peu de vêtements. Et je allais chercher quelque chose. N'importe laquelle ailleurs. Donc je suis débarqué à la gare Termini de Rome. Je suis allé chercher un endroit où dormir. J'ai pris une chambre qui se loyait à peu d'argent avec des autres comme moi. Et j'ai commencé à vivre ma vie solitaire.
Vous l'avez vu évoluer, cette ville de Rome, depuis toutes ces années. Comment est-ce qu'elle a évolué?
Comme le reste d'Italie. Ça veut dire qu'il y avait encore des baraques, des gens qui habitaient dans le vide autour de Rome, sans électricité, sans eau. Ils travaillaient comme des fous. Ils venaient de d'autres régions d'Italie pour s'installer à Rome et essayer de gagner leur vie. C'était une ville encore du tiers-monde.
Qu'est-ce qui fait de Rome, pour vous, Éric De Luca, une ville emblématique de l'Europe aujourd'hui?
Moi, je trouve plus emblématique que Napoli, vraiment. Mais Rome est un musée. C'est un concentré de la civilisation de la Méditerranée, de laquelle elle a bien profité.
C'est évidemment la ville où a été signé aussi, le 25 mars 1957, le désormais fameux traité de Rome, qui jette les bases de la future Union européenne. L'Italie faisait partie des premiers pays signataires. Aujourd'hui, quel rôle de premier ou de second plan joue l'Italie dans la construction de l'Europe de demain, pour vous?
Un rôle mineur, pour moi. Donc, le contrat Europe tel qu'il est maintenant est insuffisant. Il faut demander de plus aux États européens.
Qu'est-ce qu'il faut demander de plus?
Il faut demander de marcher vers la fédération des États-Unis d'Europe. Donc, il faut encore qu'il y ait des pays guides, des pays fondateurs de ce deuxième passage de l'Europe et ne peuvent être que la France et l'Allemagne.
L'Italie en aucun cas.
L'Italie suivra avec l'intendance.
Dans quelle Europe est-ce que vous avez l'impression de vivre, en fin de compte, aujourd'hui ?
L'Europe, aujourd'hui, est l'espace le plus libre de son histoire et le plus riche de toute son histoire. Donc, se trouve dans une condition spéciale, privilégiée, qu'il n'a jamais connue dans toute son histoire. Il n'y a plus ni de frontières ni de douanes. Et c'est un espace aussi de la liberté de parole.
Pour autant, vous n'avez jamais caché votre déception, Éric de Luca, face notamment aux réponses européennes à la question migratoire et à ce qui se joue en Méditerranée. Pour vous, de quoi la Méditerranée est-elle devenue le symbole ?
Elle est devenue le symbole d'un laisser courir de l'Europe, le fait de ne pas, de n'être pas capable de gérer ces flux migratoires.
C'est insupportable, ça, pour vous ?
C'est insupportable pour moi, personnellement, parce que je suis quelqu'un de la Méditerranée et je vois cette mer Méditerranée qui s'est remplie de noyés. De milliers et de milliers de noyés, innombrables nombres de noyés, laissés noyer. Les corps de ces personnes sont devenus du plancton pour les poissons de la Méditerranée.
À vous entendre, la Méditerranée, c'est le naufrage du rêve européen.
Homère disait c'est une voie liquide, est devenue un fossé, un barrage. Les Romains appelaient la mer Méditerranée la mer à nous, Mare Nostrum. Ils admettaient que ce n'était pas une mer conquise par eux, c'était la mer en commune avec tous les peuples qui étaient nés sur les rivages. Et maintenant, c'est encore plus nostrum, parce que c'est aussi la mer de tous ceux qui sont venus des autres, de tout le reste du monde, à se noyer dans cette mer nostrum.
Si on prélevait un échantillon dans une éprouvette et qu'on l'analysait, je trouverais les composantes de mon sang. Aujourd'hui, la Méditerranée est le laboratoire le plus intensif de transformation de corps humains en plancton. Aujourd'hui, les corps des êtres humains sont entrés dans le cycle alimentaire à travers les poissons, les marchés, les cuisines. Même les fours crématoires n'ont pas été aussi efficaces. Seule la Méditerranée, entre toutes les mers du monde, fut appelée Nostrum dans le latin de Rome. Elle ne dit pas Meum, la mienne, elle ne se l'accapare pas. Elle admit qu'elle était Nostrum, celle des peuples vivant sur ses rives. C'est un extrait, en effet, de votre essai « Europe mais mise à feu », Éric de Luca, publié dans la collection Tract de Gallimard. Et à demi-mot, vous parlez de la mort des réfugiés comme d'un génocide. Là.
C'est une extermination par hasard, sans aucune sélection des personnes exterminées. Donc c'est une dîme que ces voyageurs paient à ce voyage, au pire voyage de l'histoire de l'humanité, parce que voyageaient mieux les esclaves.
Mais là vous parlez de génocide.
Je n'emploie pas ce terme de
c'est
génocide.
Vrai. Mais quand vous dites les fours crématoires n'ont pas été aussi efficaces.
Oui, parce que la mer est plus efficace comme effacement des corps.
Votre point de vue, Éric de Luca, il semble bien minoritaire, particulièrement en Italie, où on assiste au triomphe du nationalisme à travers la figure de Matteo Salvini. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça ?
Mais il y a des moments où des personnages mineurs, en Naples, on les appelle les guapo di cartone. Ça veut dire que c'est un personnage qui se prend pour être fort et qui est formé en papier, et qui exploite les mauvaises humeurs d'une circonstance, d'un peuple, de certaines couches sociales. Et donc, il s'appuie sur des humeurs, pas sur des programmes politiques. Et les humeurs changent.
Donc vous pensez que c'est une passade, Matteo Salvini ?
Ça, c'est ce moment ici est un moment de passage. Il n'est pas arrivé là où il veut arriver, et peut-être il y aura aussi chez nous des anticorps qui l'empêcheront de produire ses pires résultats.
Le mot frontière, Éric de Luca, qu'est-ce qu'il vous évoque ?
Qu'il y en avait. À 18 ans, je suis parti en autostop pour faire le tour d'Europe, et j'ai passé beaucoup de frontières avec mon passeport. C'était l'habit de Harlequin, l'Europe, non ? Ça avait tous des morceaux d'étoffe de toutes les couleurs qui étaient les étendards et les morceaux de terrain. Maintenant, les frontières, il n'y en a plus. Maintenant, il y a une génération qui est né sans les frontières.
C'est vrai.
Sans les douanes, qui a un titre d'étude qui peut valer de Malte à la Finlande ou de l'océan Atlantique à la mer Noire. Aujourd'hui, je crois que nous, les vieux, les anciens, ne devrons pas avoir le droit de voter pour l'Europe. Parce que c'est l'Europe des jeunes. C'est l'Europe de ceux qui sont nés dans cette Europe. Nous sommes ceux de l'autre siècle. Nous sommes sans plus de légitimité dans notre expérience. Vous voyez ce qui s'est produit dans la Grande-Bretagne. L'électorat ancien a gâché le futur de l'électorat jeune. C'est passé en Grande-Bretagne comme ça pour le référendum, le Brexit, non? On peut voter pour les parlements personnels, pour les parlements nationaux, mais on ne peut pas voter pour l'Europe. Pour l'Europe, doit voter seulement les jeunes.
Ce que vous craignez, c'est que les vieux Européens détruisent votre rêve européen.
Détruisent le rêve des jeunes. La réalité des jeunes. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité, l'Europe d'aujourd'hui. C'est une réalité des jeunes qui seront le futur de ce continent.
En quoi la littérature a forgé votre conception des frontières, Éric de Luca? En quoi la littérature est-elle comparable à un territoire sans frontières?
Eh oui, c'est facile. Il faut pas avoir du passeport et du sauf-conduit. Il suffit une traduction pour passer la frontière, pour visiter la ville d'Odessa ou la ville de Prague, de Saint-Pétersbourg ou de Stockholm. Et comme ça, en tant que lecteur, je suis devenu un citoyen de ce continent. J'ai connu, à travers mes lectures aussi sentimentales, comme les lectures sur la guerre civile espagnole, par exemple, qui m'ont formé une éducation sentimentale, m'ont fait comprendre à moi qui j'étais, de quel côté j'étais.
Parmi les auteurs qui vous ont fait comprendre tout cela, il y en a un auquel vous accordez, je sais, une place particulière, c'est Albert Camus, et j'aimerais qu'on entende sa voix. Sa voix, nous lisons L'étranger, c'était en avril 1954, sur l'ORTF.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
Pourquoi Éric de Luca avoir choisi de nous faire entendre la voix d'Albert Camus? Quelle vision de l'Europe est-ce qu'il porte pour vous?
Il était quelqu'un né de l'autre côté de la Méditerranée. Et qui était complètement français, donc c'était un homme européen par excellence pour moi. Et son individualisme était le plus fertile des visions qu'il a menées avec soi. Sa perte a été beaucoup plus grave que la perte de Pasolini en Italie.
Vraiment ?
Beaucoup plus grave pour moi.
Ce choix, il dit aussi quelque chose de votre francophilie, Éric de Luca. Plus jeune, vous avez vécu en France, vous avez travaillé, effectivement, comme ouvrier. À l'origine, qu'est-ce qui avait motivé ce départ vers la France?
Mais il y avait une grande confusion en Italie à l'époque. Donc j'avais fait partie d'une génération de militants révolutionnaires. Nous avions une organisation publique avec des lieux publics, des journaux, des rencontres, des manifestations. Mais il y avait toute une dérive persécutoire qui primait des personnes qui dénonçaient les autres. Et donc, par prudence, je me suis déplacé en France.
Pourquoi en France, plutôt que dans un autre pays?
Parce qu'en plus, je connaissais la langue et j'avais l'espoir de pouvoir travailler un peu et de me débrouiller comme ça. Et là, j'ai encore rencontré des personnes qui reprochaient à l'Italie le coup de poignard aux épaules, le fait de s'être ajouté à l'Allemagne dans la guerre. Et ça, c'était une honte que je ressentais sur moi.
Vous l'avez encore, cette honte? Cette honte collective, en fait.
C'est plutôt vieilli, cette honte. Les hontes aussi vieillissent.
Quel livre est-ce que vous aviez apporté dans vos bagages? Quels étaient les livres qui vous accompagnaient, alors, lorsque vous êtes parti en France?
Jamais de livres dans ces déplacements. Je les trouve.
Je vous pose la question parce que vous êtes un voyageur, on l'a compris. Et chez vous, voyage et littérature vont quand même de pair. Vous racontez notamment, dans Europe mais mise à feu, comment les poètes allemands, en accompagnant votre traversée de l'Allemagne, vous ont permis de faire la paix avec ce que vous appelez la langue de l'assassin. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que c'est une langue qui avait comme écho « zum Schuss fertig ». C'est la langue des fusillades. Préparez-vous à tirer. C'était la langue des assassins. Et donc, il n'y a que les poètes qui peuvent réparer la langue.
Quel poète?
Par exemple, Celane, qui décidait d'écrire en Allemagne, dans la langue des assassins de sa mère.
Ça, c'est un acte très fort pour vous?
Pour lui, c'était un acte... c'était la langue dans laquelle il était plus profond. Et l'Allemagne est une langue profonde.
Quel rôle la parole des poètes et des écrivains pourrait-elle avoir dans la construction de l'Europe de demain, justement?
Il fallait interroger des écrivains nouveaux, des écrivains jeunes, nés en Europe, dans l'Europe nouvelle.
Vous avez confiance en eux, vous?
Je dois avoir confiance, parce que ce ne sera pas ma patrie le futur, c'est la patrie à eux.
Et comment faire pour que la voix de ces poètes, de ces jeunes poètes, soit entendue, Éric de Luca?
Moi, je pense que la jeune fille Greta Thunberg est une jeune poète.
Ah, c'est vrai?
Si, sa voix est poétique.
Qu'est-ce qui en fait une voix poétique?
Une voix qui agite, qui a les mots justes, qui ne gaspille pas. Elle est pressée. Et les poètes sont toujours des personnes qui sont pressées.
Vous l'avez été pressé, vous?
Je suis plutôt quelqu'un qui écrit en prose. Parfois, j'ai eu des précipitations poétiques.
De quelle Europe est-ce que vous rêvez, finalement, Éric de Luca?
De la fédération, de l'Europe fédérale. La fédération des États-Unis d'Europe.
On va en reparler de cette Europe, évidemment, mais aussi de rêves et de résistance, juste après Thomas Fersen, tiens, qui reprenait en 1995 Bella Ciao, ce chant de révolte italien qui date de 1944 et qui est une variation sur un chant populaire d'ouvrières saisonnières qui dénonçait leurs conditions de travail. Vous êtes sur France Inter avec Éric de Luca, vous écoutez Boomerang à l'heure européenne.
Una mattina, mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano? Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirei lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Il est rare qu'une moustache, à moins qu'elle ne soit portée par Freddie Mercury, à la rigueur, fasse autant mouche. Lui, dont le corps élancé semble avoir été taillé pour gravir des hauts sommets, dont le visage un peu émacié est comme illuminé par un regard bleu, électrisant. On a envie de lui ressembler ce matin avec sa petite chemise blanche sous son pull noir. L'écrivain italien Éric de Luca, invité de Boomerang ce matin pour ouvrir cette semaine européenne. On le disait, Éric, vous avez longtemps été un voyageur. Pourquoi avoir à un moment de votre vie volontairement choisi l'exil? Pourquoi n'être pas retourné en Italie?
Non, je suis retourné en Italie après des années. Après, j'ai décidé d'aller en Afrique, à faire le bénévole en Afrique, gratuit.
Il y a quand même cette idée chez vous de partir toujours, non?
M'a déplacé pour sans savoir quand revenir et s'il y aura un moment de retour.
Pourquoi?
C'est aller simple, partir aller simple, comme partent maintenant les personnes qui voyagent.
Où est-ce que vous vous sentez chez vous ?
Dans la langue italienne.
Alors ça tombe bien, parce qu'on est à Rome, aujourd'hui chez vous, et il se trouve que c'est pas la ville à laquelle on pense immédiatement quand on pense à vous. Votre nom aujourd'hui, grâce à vos livres, je pense notamment à Montedidio, est associé à la ville de Naples. Qu'est-ce que cette ville, Naples, où vous êtes né, où vous avez grandi, nous dit de l'Europe, Eri de Luca ?
Napoli est une ville ouverte, géographiquement ouverte. Donc elle, tous les peuples, les armées qui ont voulu la saisir et la prendre, l'ont prise.
Et ça, c'est l'Europe.
Donc les Napolitains, si, ça c'est l'Europe. Ça c'est l'Europe. C'est l'Europe qui mêle avec les invasions, les semences, les épidémies. Il y a encore une dispute entre les Français et les Napolitains, parce que les Français appellent le mal napolitain la syphilis. Et les Français l'appellent, les Napolitains l'appellent le mal français. Donc ils se donnent la responsabilité réciproquement. Mais ça, c'est le mélange. Naples est une ville qui s'est mélangée avec tout. C'est une ville qui concentre toute la bâtardise de la Méditerranée.
Toute la bâtardise.
Si, tout le mélange
et l'impureté.
L'impureté, si. Et aussi la résistance aux contagions. Quand tout le peuple va baiser, donner un bisou sur la tête des vers de Saint-Janvier, ça c'est la contamination à l'état complète, totale. On s'échange les mêmes microbes, les mêmes maladies, et on se renforce à travers ça.
C'est une ville aussi, Naples, qui a été bombardée par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette guerre, vous ne l'avez pas connue, Eri de Luca, et pourtant, j'ai l'impression que vous la gardez en mémoire. On l'entend dans cet entretien que vous nous accordez ce matin. Quelle blessure cette guerre a-t-elle été pour votre famille ?
Précisément pour les cauchemars de ma mère. Ma mère était une jeune fille à Naples. Naples était la ville plus bombardée d'Italie. Et donc, elle est restée coincée dans ses cauchemars de toutes les nuits. Le son de la sirène, de l'alarme aérienne. S'est réveillé toutes les nuits de sa vie avec ça. Et peut-être m'a transmis cette sonorité, cette colonne sonore du XXe siècle.
Vous l'entendez, vous, l'alarme ?
Et je ne l'entends pas comme elle. Mais quand s'est reproduit le bombardement d'une ville en Europe, quand l'OTAN s'est mise à bombarder les villes de Belgrade et des autres, pour moi c'était impossible de rester à regarder. Rester ici. Donc je suis allé à Belgrade de 99. Et je suis allé à Belgrade, je suis arrivé une nuit, et j'ai entendu le son de la sirène de l'alarme aérienne, et je l'ai reconnu. C'était le son de la sirène de ma mère, c'était ma liaison avec le XXe siècle, et j'étais en paix là. Je me suis trouvé en paix. Dès que j'étais parti furieux, je égalisais avec les cauchemars de ma mère. Moi, je n'avais pas ce cauchemar.
Ce qui est fou, c'est que vous l'ayez trouvé à Belgrade, et non pas en Italie. Ça dit quelque chose de l'Europe, ça aussi.
Oui, parce que je trouve que le bombardement d'une ville, c'est l'acte de terrorisme par excellence. L'acte qui veut détruire le nombre majeur de vies sans défense, qui sont pris comme ça, chez eux, sans défense, à toute heure du jour, de la nuit. Bombarder une ville, ça veut dire que tout explosif va à bon fin. Et arrive à la cible, ne gâche pas la cible, n'importe où, parce que la ville est la concentration de vies humaines.
Alors comment on résiste à ça, Eri de Luca ?
Et j'étais furieux, c'est pour ça que j'étais si furieux, et solitairement, moi seul j'étais furieux, je ne peux pas le partager avec les autres.
Mais la colère c'est une chose, mais résister à cela, comment on fait ?
Et je suis parti, je suis allé à Belgrade, resté là.
Votre famille, il vous est arrivé de l'évoquer dans vos romans, comme en témoigne d'ailleurs Le Tour de l'Oie. Votre dernier livre paru en janvier dernier, vous vous adressez à un fils que vous n'avez jamais eu et vous lui racontez l'histoire de cette famille. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas avoir d'enfants, Eri ?
C'est une question qu'il faut demander aux femmes. Je ne peux, peux pas me débrouiller tout seul.
C'est vrai ? Ce mensonge ?
C'est comme ça. On m'a pris ça. Il faut une femme. Alors, les femmes que j'ai rencontrées, elles ont préféré de faire des fils avec des autres.
Mais entre nous, est-ce que mettre au monde des enfants, dans un monde comme le nôtre, ça a un sens ?
Bien sûr, dans un sens. L'humanité va grandir continuellement. Donc, je suis une espèce de rouelle à l'impasse de cette machine à se reproduire.
Quel fils est-ce que vous avez été, vous ?
Un fils que je ne voudrais pas avoir comme fils.
Pourquoi ?
Parce que j'avais dans moi un tribunal où je jugeais continuellement les adultes et les personnes que j'avais autour de moi, sans pouvoir le dire. C'était un jugement qui se déroulait toujours dans moi-même. Je ne sais pas pourquoi la lecture de tous ces livres, au lieu de me rendre un moine, m'a rendu un rebelle. Je ne sais pas pourquoi. Parce que ma vocation aurait bien pu être celle d'être un moine, qui restait enfermé dans une chambre à lire jusqu'à la fin.
Force est de constater que vous n'avez pas toujours été un moine, que vous n'êtes pas un moine du tout même.
Non, non, et ça, c'est la faute à Napoli.
Faut-il que ce soit toujours la faute de quelqu'un ? Ça peut être la vôtre aussi, Harry.
Si, si, c'est ma prédisposition, c'était celle de... C'est, pouvait être celle d'un moine ou d'un habitant d'un fjord norvégien. Mais Naples m'a changé les possibilités.
Et qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il vous ait transmis, vos parents ?
Ma mère m'a transmis la guerre.
La guerre ?
C'est les histoires de guerre qui étaient tragiques et drôles contemporanément. Parce qu'il avait besoin de mettre toujours un peu de comique dans le tragique pour le basculer, pour le faire basculer, pour le rendre écoutable. Et mon père m'a transmis les livres et les montagnes.
Quelquefois, les livres aussi volent, les pages s'ouvrent, retombant comme les chats sur leurs pattes. À la seconde même où maman est morte, il en tomba un de l'étagère la plus haute. Je l'ai ramassé plus tard. La première minute, j'avais crié une longue syllabe, la négation brève. Je ne suis pas du genre à crier. Aussitôt après, le livre était tombé, avec les poèmes de Keats. L'un d'eux disait, oui disait, car les poèmes disent, ou bien se taisent, poésie, gloire et beauté sont éclatantes, c'est vrai. Mais la mort est plus éclatante encore. Le corps de maman a brûlé avec sa robe de chambre. J'ai pris la boîte des cendres au dépôt des crémations. Maintenant, elles sont sous le pain fendu. Je pense à elle quand je fais mes deux solitaires avec les cartes napolitaines. Elle est assise sur une chaise, tournant le dos à la cheminée allumée. Elle lit un livre, s'arrête quand je dispose les cartes. On les appelle des solitaires, mais les miens sont accompagnés par elle. Vous m'accompagnez dans mes isolements, vous qui n'êtes pas là officiellement. Elle lisait la nuit, quand la sirène de l'alerte aérienne coupait son sommeil. Elle fut la meurtrière de ses sommeils, le hurlement, le coup de pied qui jetait dehors avant le déluge des bombes. La sirène retentissait toutes les nuits et elle réagissait avec ses pieds, en les posant par terre. Ce fut la nouveauté du XXe siècle, l'avant-dernier cri de la modernité. Ça me fait peur. Elle me l'a dit une seule fois, la voix brisée. Elle l'a reconnue comme un reproche au monde et à moi aussi. Aujourd'hui, Harry De Luca, qu'est-ce qui vous fait peur ?
Aujourd'hui, malheureusement, rien. Parce que les peurs sont importantes, sont pratiques, utiles. Mais aujourd'hui, rien.
Est-ce que vous pensez qu'on en viendra un jour à entendre de nouveau le bruit des sirènes en Europe ?
On a bâti cette Europe pour empêcher le retour de ce son. Moi, je suis allé à Belgrade et j'ai dû l'écouter, le son de la sirène de l'alarme aérienne. Mais c'était le dernier cri du XXe siècle.
Vous êtes optimiste, en fait ?
Je dois être optimiste.
Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ?
La volonté de ne pas... de laisser place au désespoir.
Merci, Harry De Luca, de nous avoir accueillis chez vous à Rome pour ouvrir cette semaine européenne. Chaque jour, un pays, un lieu, un écrivain. Je rappelle, Harry, que votre dernier roman, Le Tour de l'Oie, dont je viens de lire un extrait, est publié chez Gallimard et que votre très beau texte Europe, mais mis à feu, est aussi disponible chez le même éditeur. On se retrouve demain à Lisbonne, au Portugal, avec la romancière Lydia Georges. Mais tout de suite, les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Qui se perd dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire.
dans la rigole. Pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent reviens me chercher, prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle, cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert. Quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde toute tête menaçant. J'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché?
Aloïs Sauvage, présentement sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.